France Inter.
Journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la douloureuse. Elle vient de tomber, c'est le montant du déficit public pour l'année 2023. 5,5% du PIB, comme on s'y attendait, c'est bien pire que ce qu'avait prévu le gouvernement. On tentera de comprendre pourquoi dans un instant et comment récupérer des milliards pour renflouer les caisses de l'État. Ce sera aussi le sujet de l'interview de 8h20.
Oui, le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Notre invité.
Il sonnait déjà l'alarme il y a 2 semaines sur nos finances publiques, plus délabrées que celles de nos voisins. On est au pied du mur, dit-il. Comment analyse-t-il le dérapage annoncé ce matin? Que faut-il faire pour éviter la dégradation de la France? Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, est notre invité à 8h20.
Et vos questions, 01 45 24 7000.
D'ici là, on entendra des consommateurs de drogue. Ont-ils conscience d'alimenter un si sombre trafic à l'heure des opérations Place Net? On écoutera le coup de gueule du maire d'Orléans contre l'État qui délocalise la misère parisienne en région. Vladimir Poutine qui parle pour la première fois d'attentats islamistes à Moscou tout en continuant à accuser l'Ukraine. Et Gabriel Fauré jouait sur un piano à 102 touches au lieu des 88 que nous connaissons.
France Inter.
Pour nous autres, dépenser plus que ce qu'on gagne, ça s'appelle un découvert. Pour l'État, on parle de déficit sous forme de pourcentage du PIB, l'équivalent de milliards d'euros de découvert. 5,5% pour l'année 2023. Le verdict de l'INSEE vient donc de tomber. Gros dérapage des comptes publics, bien au-delà des prévisions du gouvernement qui tablait sur 4,9%. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
La question toute simple, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors d'abord, ce que l'INSEE nous dit ce matin, c'est que c'est 0,6% d'écart avec les prévisions sont en partie dues à moins de recettes, moins de rentrées prévues dans les caisses de l'État. On parle là de TVA, de l'impôt sur les sociétés aussi, fort ralentissement. Mais ce qui n'avait pas été prévu aussi, eh bien c'est la baisse des rentrées fiscales immobilières, explique l'économiste à l'OFCE Mathieu Plane, joint il y a quelques minutes.
C'est un des points importants, pas anticipé de cette ampleur-là, en tout cas, hein. Effectivement, l'impact de la crise immobilière sur les recettes fiscales et notamment avec la chute vertigineuse des transactions immobilières.
La chute des transactions immobilières et donc de ce qu'on appelle les droits de mutation après la crise effectivement qu'a connu le secteur dans la foulée d'une longue succession de hausses des taux d'intérêt.
Alors la suite forcément, ce sont des économies supplémentaires pour rentrer dans les clous de la zone euro et redescendre à 3% de déficit en 2027. La France y est engagée, Claire, et la question est éminemment politique.
Et oui, puisque chaque dixième de pourcentage de PIB équivaut à 3 milliards d'euros de dérapage budgétaire. Il faudrait donc fournir une marche en 2027 de 70 milliards d'euros d'efforts budgétaires. On le sait, le gouvernement tape désormais sur 20 milliards d'euros de coupes supplémentaires pour 2024, avec dans le viseur les prestations sociales, le budget des collectivités locales et aussi un effort colossal et non sans risque pour la croissance elle-même. C'est tout l'enjeu des arbitrages qui se profilent, explique Mathieu Plane.
Soit aller vers une austérité extrêmement marquée pour tenir les objectifs budgétaires, mais avec des risques très forts du côté de l'économie, de la croissance et même des risques sur le chômage ou du pouvoir d'achat ou l'investissement. Ou alors il faut renoncer en partie à cet objectif de 3% et viser une réduction plus, j'allais dire, moins ambitieuse des déficits publics pour préserver la croissance. Et puis, dernier point, c'est la question de la fiscalité. Si on veut tenir coûte que coûte les 3%, il est difficile d'écarter des hausses de fiscalité.
Voilà, augmenter les impôts, le gouvernement refuse de le faire pour les ménages, même si le débat va certainement encore monter d'un cran, y compris au sein de la majorité. Et puis, impôts sur les sociétés, on parle là de taxation des super-profits. Bercy balaye cette option, sauf concernant la rente des énergéticiens.
Claire Chaudière, merci. Autant dire que c'est pas gagné pour ceux qui voudraient plus de sous en ce moment, comme les retraités appelé à manifester aujourd'hui pour réclamer 10% de hausse de leur pension. Elles ont augmenté d'un peu plus de 5% au 1er janvier. Pas suffisant face à l'inflation pour Henri, 72 ans, ancien commerçant du Var.
J'ai toujours eu des commerces, ben je touche 930 euros par mois. Voilà, c'est tout. Et je ne m'en sors pas. On serre la ceinture, on se prive de tout, sur les courses surtout. Et Benjamin, on évite la viande, on évite. Comment vous voulez faire? L'autre fois, on est allé faire avec ma femme un panier. On a fait 150 euros, il n'y avait que du morceau de carton.
Donc on économise surtout dans votre quotidien, quoi. On ne sort pas.
Et sortir, vous allez manger un morceau au restaurant, et ben, vous gambergez, vous dites, ben, aujourd'hui je vais manger au restaurant, ben, je vais me priver de courses.
Donc vous n'y allez pas?
Non, on n'y va plus. Moi, simplement, j'arriverai à 1050 euros, ben, je vivrai déjà, ça nous ferait un peu plus par mois.
Voilà, Henri qui aimerait un peu de beurre dans ses épinards, au micro de Sophie Glotin, France Bleu Provence.
Il est 8h06 et maintenant, ces milliards qui n'enrichiront jamais l'État.
Bénéfice d'une économie souterraine et délétère. On parle du trafic de drogue, contre lequel le gouvernement lance des opérations tous azimuts depuis la semaine dernière. Marseille, Dijon, le Nord, les régions parisiennes et lyonnaises. Près de 500 arrestations de dealers. Mais la lutte passe aussi par les consommateurs. Le pétard fumé le samedi soir a le goût du sang séché sur les trottoirs, pour le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Qu'en disent les acheteurs visés ? Parole de consommateur, au micro de Morgane Klein-Refait.
L'impact des opérations Place Nette, Luc, 25 ans, dont 10 à fumer du cannabis, ne le voit pas.
Pas du tout. Toutes les villes ont des réseaux de revente, des tout petits réseaux. Le trafic ne se concentre pas à la Castellane, à Marseille, à je ne sais quelle cité, d'Aulnay-sous-Bois.
Sans compter ceux comme Léo, qui se fournissent ailleurs que sur des points de deal.
Tu peux essayer de casser des points de deal dans les cités, ta chance. Ça ne changera rien parce que maintenant, des canaux de communication comme Snapchat, Telegram, Signal, grâce à ces moyens de communication, tu peux te faire livrer à domicile.
Un phénomène qui se généralise depuis la pandémie, selon l'Observatoire français des drogues. Preuve que le durcissement des sanctions en parallèle ne change rien aux yeux de Baptiste.
La demande, elle ne partira pas parce qu'il y a des arrestations, elle ne part pas parce qu'il y a des amendes lorsqu'un consommateur se fait attraper.
Quant au sentiment d'avoir un rôle en tant que consommateur, Paul, adepte de diverses drogues dures, les balais.
J'ai aucune responsabilité ni dans les trafics ni dans le débordement. Moi, ma responsabilité, c'est de m'occuper de mes addictions et de ma santé mentale. Culpabiliser le consommateur, en fait, c'est une politique très réactionnaire. En fait, la répression, ça marche pas et ça a jamais marché.
Constat que partage Jean-Pierre, la cinquantaine, installé dans l'Aveyron.
Moi, si j'avais le choix en tant que consommateur, je me rendrais dans une enseigne légale, proposer une offre légale, et vous verrez qu'il n'y aura plus de marché noir, il n'y aura plus de tir à la Kalachnikov.
Tous s'accordent pour demander la légalisation à minima du cannabis qui pourrait stopper, selon eux, les impacts néfastes des trafics.
Témoignage recueilli par Morgane Klein-Refait. Voilà qui nous amène à cette déclaration choc. Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline du crack de Paris. Coup de colère du maire de la ville qui a convoqué une conférence de presse hier soir pour dénoncer l'arrivée de 500 migrants sans-abri depuis près d'un an, déplacés par les autorités en catimini, dit Serge Grouard, pour faire place nette avant les Jeux Olympiques. Depuis un an, effectivement, plusieurs centaines de personnes ont bien été évacuées de camps de migrants ou de squats à Paris, vers 13 régions à la demande de l'État. Ce que le maire d'Orléans, ex-LR, ne saurait supporter plus longtemps, Boris Loumagne.
Tout est parti d'un constat fait par Serge Grouard, le maire d'Orléans, et par une partie de ses administrés.
Depuis mai 2023, toutes les trois semaines, il y a un car qui est affrété de Paris, qui embarque des personnes migrantes en situation irrégulière et sans domicile fixe pour les amener à Orléans.
Depuis des mois, le maire interroge donc régulièrement les services de l'État.
Et les réponses ont toujours été évasives, sans que je sache exactement qui venait et surtout ce qu'on leur proposait.
Alors ce qui est proposé à ces personnes, eh bien ce sont quelques semaines à l'hôtel. Ensuite, les SDF ou les migrants, je cite le maire, s'évaporent dans la nature.
Ça, ce n'est pas convenable. On ne peut pas se débarrasser des problèmes sur nous en disant, bah, finalement, c'est peut-être difficile à Paris, débrouillez-vous du problème.
Quant aux associations d'aide aux personnes précaires, elles partagent le constat du maire, Paul Allozy de Médecins du Monde.
Depuis l'arrivée des JO, on envoie systématiquement les gens hors de la région Île-de-France. C'est juste un déplacement des sans-abri et ils se retrouvent dans des petites villes où il y a beaucoup moins de moyens, à la rue, alors qu'ils n'y ont pas de réseau.
Et sans réseau d'entraide, sans solution de logement pérenne, une partie de ces personnes préfèrent même retourner à Paris.
Boris Loumagne, la mairie de Strasbourg, concernée elle aussi, déplore l'opacité de la méthode et un accueil contraint sans moyens supplémentaires. Des agriculteurs à Dunkerque, c'est le congrès de la FNSEA qui commence deux mois après les manifestations du monde agricole et juste avant le projet de loi d'orientation présenté vendredi. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, sera l'invité du Téléphone Sonne d'Inter ce soir à 19h20.
Il est 8h10 à Moscou. Florence, Vladimir Poutine parle pour la première fois d'une attaque islamiste.
Elle a fait 139 morts et près de 200 blessés vendredi dans une salle de spectacle revendiqué par le groupe État islamique, mais le président russe continue à pointer l'Ukraine du doigt. Il a pris la parole hier soir et sous-entendu, Sylvain Tronchet, que l'attentat pouvait très bien avoir été commandité à Kiev.
Plus de 48 heures après la revendication du groupe État islamique, Vladimir Poutine a donc prononcé IGIL, l'acronyme qui désigne Daesh en russe. Le chef du Kremlin est même allé jusqu'à admettre que les membres du commando étaient des islamistes radicaux. Cela devrait, en toute logique, suffire à désigner le coupable, mais non. Dans la minute qui a suivi, le président russe a immédiatement retourné le viseur vers Kiev.
Nous savons par qui cette atrocité contre la Russie et son peuple a été commise. Nous voulons savoir qui l'a commanditée. Et la question se pose, à qui cela profite-t-il? Cette atrocité ne peut être que le maillon d'une série de tentatives menées par ceux qui, depuis 2014, sont en guerre contre notre pays aux mains du régime néo-nazi de Kiev.
Dans sa logique toute personnelle, Vladimir Poutine a également noté que si les États-Unis désignaient eux-mêmes Daesh, c'était sans doute pour protéger le régime de Kiev. Kiev qui serait, selon lui, en train de créer de nouvelles jeunesses hitlériennes, les islamistes, les néo-nazis, les Ukrainiens. Voilà donc la coalition des ennemis de la Russie qu'a désigné le maître du Kremlin. Mais son porte-parole l'a promis hier, il se fiera au résultat de l'enquête. Moscou, Sylvain Tranchet, France Inter.
Comme un coup de froid entre les États-Unis et Israël à Jérusalem. Depuis hier, on reproche à l'Amérique de Joe Biden de ne pas avoir mis son veto à l'ONU sur une résolution appelant au cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération des otages. Résolution qui n'a pour l'instant aucun effet sur la guerre. Des frappes ont encore eu lieu ce matin dans le sud de l'enclave palestinienne. Pas d'argent dans ce coffre-fort-là, mais des graines du monde entier. Direction le sud de l'Angleterre. Nous sommes dans le Sussex, où plus de 80 personnes sont dévolues à la préservation d'un héritage de la planète, une banque mondiale des plantes créée il y a 24 ans par les jardins botaniques royaux. Suivons le guide avec Richard Place.
Une porte blindée se referme sur ce trésor. Cet abri est prévu pour résister aux inondations, aux bombardements, aux radiations. Ici, 16% des plantes sauvages que l'on trouve dans le monde sont préservées. Près de 2,5 milliards de graines, environ 40 000 espèces. Elles sont stockées à moins 20 degrés dans de grands bocaux en verre, on dirait de gros pots de confiture. Le docteur Louise Colville, directrice de recherche, est l'une des gardiennes de ce temple.
Quand une espèce de plante disparaît, on ne sait pas ce que l'on perd. Ça pourrait être utile, médicinal. Si on laisse faire, on pourrait perdre un futur remède contre le cancer, par exemple.
Ces graines sont directement envoyées par des pays ou prélevées sur place par des équipes de Kew Gardens. Timothy Pierce coordonne les partenariats. Il travaille beaucoup en Afrique de l'Est et pas seulement pour archiver.
Au Kenya, j'ai ramassé une plante qui ressemblait beaucoup à du riz ordinaire et ça poussait dans un fossé desséché au bord de la route. Il y a donc des gènes différents chez ce cousin du riz qui pourraient l'aider à mieux résister au changement climatique.
10% des espèces conservées ici ont déjà disparu de la surface de la Terre ou sont sur le point de disparaître. Les graines stockées dans cette banque peuvent aussi servir à faire revivre cette diversité. Dans la Millennium Seed Bank, Richard Place, France Inter.
Du neuf avec du bleu, l'équipe de France de foot remaniée après sa défaite samedi contre l'Allemagne a rendez-vous avec le Chili ce soir à Marseille. Mike Maignan sera de retour dans les buts. Colomouani en attaque. Hier soir, ce sont les Bleuets qui étaient sur le terrain. L'équipe de France des moins de 23 ans, qu'on verra au jeu cet été, tenue en échec. 2-2 face aux États-Unis. À Sochaux. Enfin, sa pavane est l'un des morceaux classiques les plus connus du monde, utilisé, souvenez-vous, dans une publicité pour un parfum Cacharel à la fin des années 80. Gloire à Gabriel Fauré, dont on commémore le centenaire cette année. Pour l'occasion, le pianiste Lucas Debargue sort l'intégrale de ses œuvres pour piano. 4h30 de musique enregistrée sur un piano exceptionnel de 102 touches, Stéphane Capron.
102 touches au lieu des 88 traditionnelles. Lucas Debargue a enregistré ce coffret en Bourgogne chez Stéphane Polello, le concepteur de ce piano hors norme qui lui permet de bénéficier de sonorités supplémentaires.
C'est surtout davantage de cordes. Et quand on a davantage de cordes, on a davantage d'harmoniques. Il y a une richesse en fait supplémentaire dans le son. On bénéficie dans le registre médium de toutes les harmoniques, de toute la résonance de ce piano avec aux dimensions colossales.
Lucas Debargue s'est réellement immergé dans l'œuvre de Fauré pendant plusieurs années pour concevoir cet enregistrement historique et livrer toutes les facettes du compositeur.
Sous cette eau qui semble assez calme dans la musique de Fauré, il y a des monstres sous-marins, il y a des choses complètement fantastiques, effrayantes aussi. C'est une musique qui, je pense, n'est pas encore vraiment connue. Elle est encore très rattachée à l'idée qu'on se fait de Fauré. Et on a cette image un peu d'homme mystérieux, très élégant. Moi, c'est vrai qu'en découvrant le corpus, j'y ai trouvé d'autres choses.
Dans la composition des 4 CD, Lucas Debargue a fait le choix de mélanger les impromptus, les nocturnes, les baccaroles, une liberté qui permet de picorer dans l'œuvre de Fauré pour prendre conscience de la richesse de son œuvre.
L'intégrale des œuvres pour piano de Gabriel Fauré, mort il y a 100 ans, en 4 CD et sur 102 touches de piano, signé Lucas de Bargue.
Merci Florence Paracuelos. 9h20, Léa Salamé reçoit la comédienne Agathe Natanson pour son livre « Chantons sous les larmes, lettre à Jean-Pierre Marielle » publié aux éditions du Seuil. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Et les régions méditerranéennes sous surveillance, Marie-Pierre.
Oui, Nicolas, dès ce matin, car la dépression sur le golfe du Lion entraîne un épisode méditerranéen avec de bons cumuls de pluie, des orages surtout sur les Cévennes et des rafales de vent jusqu'à 100 km/h sur les côtes héroltaises et varoises, d'où l'Hérault placé en vigilance orange, vague, submersion. Et en plus, on a également des pluies qui remontent d'Espagne accompagnées d'un air beaucoup plus doux. Et ces pluies gagnent les régions du nord du pays, excepté la pointe bretonne et les régions situées entre la Lorraine, l'Alsace et les Alpes du Nord. À noter qu'à cause de ces pluies, bien, il neige fortement en montagne, 800 mètres sur les Pyrénées, 1200 sur les Alpes du Nord. Et avec cet air plus doux, le mercure remonte un peu ce matin. Il fait 0 dans le Var à Vidauban, 2 à Quimper, 7 à Clermont-Ferrand, 8 à Paris et Cognac, 13 à Marseille et 15 à Propriano.
Et toujours des pluies dans l'après-midi.
Et oui, le seul changement remarquable, Nicolas, sera le flux de sud qui va se décaler vers l'est. Et de ce fait, bien, l'air plus froid va s'engouffrer sur les régions de l'ouest, donnant un ciel de traîne qui va faire baisser les températures entre les nuages, les averses, une petite éclaircie de la Bretagne en descendant jusqu'au Pays Basque. Sur le reste du pays, bien, ce sera un après-midi pluvieux avec toujours cet épisode cévenol, du vent et des pluies jusqu'en Corse et de la neige en montagne sous un mercure en baisse. 7 à Aurillac, vous aurez 8 au Mans comme à Toulouse, 9 à Limoges, 10 à Rouen, 12 à Paris comme à Hendaye, comptez 14 à Lyon, Salon de Provence et Narbonne, mais 17 à Vesoul, 19 à Ajaccio comme à Chambéry, en se rappelant que jamais pluie de printemps ne passe pour mauvais temps.
Merci Marie-Pierre. Il est 8h18.